L'écrit, ça arrive comme le vent. C'est nu, c'est de l'encre, c'est l'écrit. Et ça passe, comme rien ne passe dans la vie, rien de plus sauf elle, la vie. Confie Marguerite Duras en 1993. L'écrit, ça arrive, ça passe, comme le vent, comme la vie. Au point de désigner ce mouvement qui définit pour elle l'écriture, quand elle la nomme dans les années 80, écriture courante. Celle qui court sur la crête des mots. Ce mouvement, cette course des mots qui se refuse à tout ordonnancement, aussi imprévisible que les rafales du vent, est donc à appréhender comme un passage. Ça passe, et c'est dans ce geste de traversée qu'il faut le saisir, l'entendre, le recevoir. Duras s'est très souvent expliqué sur ce processus qui est pour elle l'écriture, au point d'en faire un lieu. Je cite les parleuses. « Je sais que le lieu où ça s'écrit, où on écrit, moi, quand ça m'arrive, c'est un lieu où la respiration est raréfiée. Il y a une diminution de l'acuité sensorielle. Tout n'est pas entendu, mais certaines choses seulement. » Fin de citation. Mais un lieu qui, paradoxalement, donc, s'éprouve comme passage, à l'instar des lieux géographiques, qui, dans les fictions de Duras, renoncent à circonscrire leur territoire, toujours en excès sur leurs limites. Ainsi de Estala. Ici, c'est Estala jusqu'à la rivière, et après la rivière, c'est encore Estala. À l'image aussi de ces lieux que Duras nomme précisément passage et qu'elle donne à imaginer dans les yeux bleus cheveux noirs. Là où, dans les masses de pierre, au bout de la ville, se fait l'amour et aussi bien l'écriture. Je cite les yeux bleus. Est-ce qu'elle sait ce qui se passe vers les masses de pierre à partir du temps qu'il fait, du froid, du vent? Oui, elle le sait dès la sortie de la ville. Elle raconte. Avant d'avoir appris ce qui se passait la nuit de ce côté-là de la plage, elle ne savait pour ainsi dire rien. C'était ce qui se passait là, presque chaque nuit, qui faisait qu'un jour, elle écrirait. Que même si cette connaissance n'apparaissait pas en clair à la lecture des livres qu'elle écrirait, ce serait à travers ça que ces livres voudraient dire et devraient être lus. Dans ces passages, quelque chose arrive, du sexe, de l'écriture, qui ne s'exprime pas dans la clarté, mais dans la nuit, qu'il faut deviner plutôt que contempler, et qui offre d'un même tenant un décor au désir et à l'écrit. Chloé Chouan nous le fait comprendre, je la cite. Les passages sont le lieu où s'origine la défloration, le lieu de la prostitution, mais surtout le lieu de la mise à l'écrit, espace de transition entre le sexe et sa mise en discours. Fin de citation. Or, cette mise en discours doit épouser ce que Duras nomme dans l'amant la sombre et terrible profondeur charnelle, qui fait signe vers le non-écrit du désir. Là où le texte passe par, doit en passer par le gouffre, je cite le navire Knight, le gouffre, ce premier âge des hommes, des bêtes, des fous, de la boue. Là où l'Olvestein se fait bête séparée de la forêt, obligeant le narrateur à inventer une langue inouïe, un long mugissement fait de tout mot fondu et revenu au même magma. Dans ce temps du passage, l'écrit rejoint un lieu archaïque, quasi animal, de la langue. Je vais vers l'Olvestein, je l'embrasse, je la lèche, je la sens. Mais ce passage de l'écrit, parce qu'il ne trouve pas dans la langue un lieu qui lui donne un plein accueil, traverse le texte plus qu'il ne l'habite, et fuit ce que Duras nomme dans le navire Knight l'épouvantail de la lumière. Rien dans le jour ne se voit de la nuit. Ce passage. On examinera ici les conditions esthétiques qui permettent de voir, dans la nuit, s'opérer ce passage. Quand celui-ci se décline en forme verbale, l'écriture de Duras choisit de nommer ce parcours non par la locution « passer par », mais par « en passer par ». Quelques exemples. « Outside », il faut en passer par eux, les journalistes. Les yeux verts. Je suis tenu d'en passer par une apparente fragmentation de l'écrit. Toujours les yeux verts. le cinéaste en passe par un livre dont l'écriture n'aura pas lieu. Cet emploi du pronom, qui ne joue pas le rôle anaphorique qui lui est dévolu, ne fait qu'accompagner le procès de la phrase à la façon dont une formule explétive le ferait. Mais s'il est dès lors un signe de surenchère, de soulignement, voire d'excédent, il donne surtout à entendre, ici, la nécessité d'un passage par un non-lieu. Dans le contexte de ces citations, en effet, il s'agit toujours de rendre compte d'une parole, d'une écriture, qui ne trouve pas son lieu. Dans le premier exemple, il faut en passer par eux, les journalistes, il s'agit de la parole orale, en l'occurrence celle de l'actrice Delphine Seyrig, qui serait dévoyée par les journalistes. Dans le second exemple, je suis tenu d'en passer par une apparente fragmentation de l'écrit. Il s'agit de ce récit cohérent que Duras dit ne plus pouvoir construire sans se heurter à la fragmentation qui dissémine l'écriture. Enfin, dans le dernier, le cinéaste en passe par un livre dont l'écriture n'aura pas lieu. Il s'agit bien évidemment de l'absence du livre qui préexiste au film. Mais en ralentissant ce passage, le cours du passage, en l'alourdissant par ce pronom superfétatoire, Duras donne corps, de ce fait, à ce qui ne s'écrit pas. Le non-lieu de l'écrit hante la parole qui se refuse, le récit qui balbutie, le film qui prétend échapper au livre. Ce passage est alors aussi un vide, mais un vide qui résonne. Ainsi, toujours à propos du cinéma, regardez bien certains films, cela se lit. La trame de l'écrit s'y lit. Le stade de l'écriture occulté, conscient ou non, se voit, sa place, son passage, se voit. Écriture occultée par laquelle il faut passer, en passer, pour que ce qui ne s'écrit pas résonne et affirme sa présence silencieuse, son être taciturne. Aurélia Steiner, vous êtes ce qui n'aura pas lieu et qui, comme tel, se vit. De même, quand Duras lit un texte à voix haute, elle fait en sorte que le vide entre les mots soit entendu. Je cite Les yeux verts. Cette lenteur, cette indiscipline de la ponctuation, c'est comme si je déshabillais les mots, les uns après les autres, et que je découvre ce qui était au-dessous, le mot isolé, méconnaissable, dénué de toute parenté, de toute identité, abandonné. Parfois, c'est la place d'une phrase à venir qui se propose, parfois rien, à peine une place, une forme, mais ouverte, à prendre. Mais tout doit être lu, la place vide aussi. Je veux dire, tout doit être retrouvé. L'écrit doit donc en passer par cette structure vide, cette négation de lui-même, et convoyer avec lui ce qui s'absente de lui, ce qui le désavoue, tout en lui permettant d'exister. Il est en ce sens en passage, comme les personnages de Duras sont en aller. Si bien qu'à interroger ce moment où passe l'écrit sans pour autant se transformer en écriture, Duras en vient à interroger l'instant de la naissance des mots qui adviennent sur la page. Or, c'est toujours comme forme, comme matière, que le mot lui apparaît, non encore pourvu de sens. Un sens qui vient après et s'accommode comme il le peut de cette matière graphique ou sonore qui a surgi. À propos de la diction si particulière de ces actrices, ici Delphine Seyrig et Nicole Hiss, Duras décrit la venue au jour des mots comme un accouchement de la langue. Je cite Outside. Elle parle. Les mots sont d'abord contenus dans leur bouche, mais sans respiration autonome, pas séparée d'elle. Puis elle les laisse sortir dans un glissement sans heurts. Le passage se ressent, aisé, indolore. Le mot dort encore lorsqu'il sort. Endormi, il se retrouve à l'air libre. Alors seulement il se réveille. La souffrance s'entend, le mot se déplie, respire et crie. Son sens éventuel est encore à venir. Avant cela, il faut que ce premier mot crie de surprise. C'est du bruit qui sort, du cri. Et alors seulement le sens arrive et le revêt, l'habille, l'embarque dans la phrase dans laquelle il va s'encastrer, s'immobiliser et mourir. Fin de citation. Mot enfant, mot non encore habitant de la langue, signifiant flottant, qui n'a pas encore trouvé de lieu pour s'inscrire. C'est cette trace qui précède l'écrit ou la parole, ce que Duras nomme ailleurs le non-écrit, dont il s'agit de nous faire entendre qu'elle ne disparaît pas tout à fait dans l'écrit. Ce non-écrit aurait à voir avec l'infantia, ce temps d'avant le langage, dont Jean-François Lyotard nous dit qu'elle, je cite, « hante le discours ». Celui-ci ne cesse pas de la mettre à l'écart, il est sa séparation. Mais il s'obstine par là même à la constituer comme perdue. À son insu, il l'abrite donc, elle est son reste. Fin de citation. C'est pourquoi, sans doute, Duras tente-t-elle de déchiffrer, comme autant de signes improbables, ce qu'elle nomme des accidents, à qui dites, il arrive, afin de les percevoir et d'en écrire, avant même qu'ils prennent corps dans une signification qui se révélera mortifère. Quelques exemples. Dans le camion, on attend l'accident qui va peupler la forêt. C'est le bruit d'un passage. On ne sait pas de qui, de quoi. Ainsi aussi le noir et la nuit, métaphore réitérée de ce passage en forme de non-lieu. Le noir de ces films lui apparaît, je cite, « comme un passage par un non-pensé, un stade où la pensée basculerait, s'effacerait ». Et quand elle commente la peinture d'Aki Kuroda, elle y distingue des irrégularités, des mouvements, des accidents à peine visibles, qui surviennent, surgissent et ensuite se répètent régulièrement. Sur la peinture noire, comme autant d'étapes secrètes de, je cite, « ce qui deviendra la défiguration du noir », nommé séculairement le tableau. Ainsi enfin cette rêverie sur le passage du temps, dans l'été 80. Et le vent est tombé vers 2 heures du matin, des passages toujours, comme des urgences du temps, et puis des disparitions totales, des évanouissements. Sur le balcon, j'ai vu, l'air était redevenu immobile, et la mer de nouveau s'était endormie. La nuit était sonore, et creusée par l'absence des regards sur son obscure splendeur. On entendait comme son grain, son pas. Chorégraphie synesthésique qui donne un contour, fut-il évanescent, à ce non-écrit qui hante l'écrit et résonne tel ce gong vide du ravissement de l'Olvestein, qui nous rappelle que le mot « trou » qui n'existe pas nous attend pourtant au tournant du langage. Faire entrer cet écrit en passage dans les lieux de la fiction conduit Duras à creuser le matériau romanesque de zones souterraines, là où les mots ne s'inscrivent pas, mais se font entendre pourtant. On en trouvera un exemple avec Les Chantiers, cette nouvelle que Duras écrit en 1954. Les Chantiers met en scène l'événement d'une rencontre entre un homme et une femme, dont le désir ne verra le jour qu'à travers un troisième terme, qui est le chantier en construction d'un cimetière. Comme toujours chez Duras, ce troisième terme est absent, ici, dans ce qui le désigne. Seules des allusions récurrentes nous informent que ce chantier est un lieu consacré à la mort. En particulier, parce qu'il provoque un effet de sidération chez la jeune femme, je cite. « Lorsqu'il fut tout près d'elle, il vit son visage pétrifié dans une intensité immobile, et il en fut certain, c'était bien le chantier qu'elle regardait. » Ce moment d'intensité immobile précipite le désir de l'homme pour celle qui est confusément attirée par ce chantier. Dès lors, ce qui permettra de mener à la rencontre, c'est le passage du temps, mais un temps qui prend son temps, le temps dilaté de l'attente de l'homme, qu'épouse celui du récit. Un récit qui donne à lire ses efforts pour en passer par cette attente. Au centre exact du texte, en effet, la description du chantier met en abîme l'avancée du récit. Je cite. Le chantier se réduisait à la construction de ces murs qui prétendaient renfermer à jamais une partie de la prairie. La portion de prairie que l'on avait décidé d'enfermer était ainsi était à peu près aussi importante que celle qu'avait jusque-là contenue l'ancienne enceinte. Le mur qui avait été abattu permettait de voir parfaitement cette ancienne partie, entièrement utilisée, et répondant dans chacun de ses mètres carrés à la même destination, remplie peu à peu selon un rythme imprévisible, mais fatal. La partie ancienne du cimetière est aussi la partie ancienne du récit que nous lisons, celle que nous avons déjà lue et qui a été remplie par les échanges des regards autour du chantier et est appelée à être continuée par une nouvelle partie à peu près aussi importante, dit le texte, et en effet nous sommes au milieu du texte, qui nous mènera à la rencontre selon le même rythme, imprévisible, mais fatal. Le récit peut de ce fait être dit en chantier et finit par trouver la loi de son avancée quand il est noté plus loin que l'homme découvre, je cite, « la primauté de la chose la moins énoncée sur la chose énoncée ». Dans ce passage que creuse l'écriture pour avancer, c'est le retrait des mots de la chose dite, énoncée, qui permettra que, sans un mot, les deux personnages se rejoignent et accordent leur désir. On le voit, c'est au non écrit que le texte se ressource, parce qu'il naît tout entier du refus de nommer ce qui fait la spécificité de ce chantier, ouvrant ainsi, écrit Robert Harvey, l'imaginaire du lecteur à un régime poétique, non réaliste, qui inscrit la mort dans les images hyperboliques, excessives, quasi hallucinatoires. L'étude des manuscrits permet à partir de là de comprendre comment Duras privilégie ce passage de l'écrit au détriment de la signification immédiate des textes qu'elle publie. Si l'on considère les avant-textes du Ravissement de l'Olvestein, force est de constater que l'écrit n'en passe pas seulement par ce non-écrit qui lui serait antérieur et qu'on trouverait donc dans les manuscrits, mais au contraire revient à lui donner corps dans le texte définitif. Ce qui ne manque pas d'en troubler la lisibilité. Les corrections de Duras empruntant toujours la même direction, celle de la soustraction du sens, de son obscurité. Les ébauches du récit, en effet, sont étrangement plus claires que le texte, que ne le sera le texte définitif. Duras, on le voit dans les manuscrits, obscurcit volontairement le texte en opérant des suppressions de phrases qui permettaient de mieux saisir le sens de ce qui était écrit. J'en prends un premier exemple. Lorsque, dans le train qui mène Loll et Jacques Holt vers Tibitch, à la fin du roman, celui-ci prend Loll dans ses bras, apparaît dans le texte définitif ce paragraphe qui reste très allusif et difficile à saisir. « Je l'ai prise par la taille et je l'ai caressée. Le comportement est vide comme un lit fait. Des petites filles, trois, me passent par la tête. Je ne les connais pas. L'aînée, c'est Loll, dit Tatiana. » L'enchaînement des phrases brèves qui clôt ce paragraphe, l'allusion sans référent précis aux petites filles qui ne reviennent plus jamais dans le texte, s'il mime les sursauts d'une pensée en marche sous le mode du monologue intérieur, laisse le propos à distance du lecteur. Le manuscrit, lui, en dépliait clairement le sens. On trouve dans la plupart des manuscrits, l'épisode est décrit ainsi, ce n'est pas Loll que caresse, enfin, c'est pas l'ensemble du corps de Loll que caresse Jacques Holt, mais ce sont les seins de Loll que caresse donc le narrateur, ce qui motive la phrase suivante, « Je ne connais pas les trois petites filles qui y ont bu. » Tatiana m'a dit encore que l'une d'entre elles lui ressemble à hurler, qui donne tout son sens à l'expression « l'aîné, c'est Loll ». Si ce passage n'est pas tout à fait déterminant pour accéder au personnage de Loll, il témoigne pourtant d'une pratique qui fait sens. On s'aperçoit que les fragments de manuscrits fortement corrigés, toujours dans le sens de l'ellipse, se multiplient après la page 112 dans l'édition Folio. Or, c'est là que Jacques Holt, jusqu'ici simplement troublé par Loll, entre dans un désir de fusion avec elle qui le mène à épouser la mémoire de l'Olvestein, celle qui a fait d'elle ce qu'elle est, une dormeuse debout, et ainsi à accéder à son délire au risque d'y perdre ses propres repères. En tout cas, les repères du récit qu'il continue de prendre en charge, puisque l'état de ravissement, on le sait, prive le sujet de la possibilité de s'inscrire dans la logique du discours. À ce moment du roman, le narrateur l'exprime en toute lucidité, page 112 donc, « Je suis dans la nuit de Tibitch. » C'est fait. On comprend à partir de là que l'enjeu de la narration sera de délivrer un récit ravi, lui-même. Lui-même pris dans les raies du ravissement qui habite Lol, et à présent Jacques Holt, que Lol a lui-même ravi. Le texte devait dès lors d'échapper à toute clarté signifiante, à tout aménagement de la fiction qui en traduirait le cheminement obscur. Et pour que ce ravissement du texte soit perceptible, il fallait à Duras remonter vers le non-écrit, opérer ce passage, mais cette fois-ci à rebours, partir du sens clair pour arriver à un sens confus, qu'elle décrit ainsi dans la vie matérielle, partir du sens plein, en être submergé et arriver jusqu'au non-sens. En somme, donner à lire dans le ravissement de Wolfenstein ce que Lacan nommera l'angoisse du récit. Plus loin, lors d'une scène essentielle, celle du rendez-vous de Jacob et de Tatiana Karl à l'Hôtel des Bois, en présence de Lol, couché dans le champ de seigle, le dispositif triangulaire met en circulation le désir et perturbe les identités quand Jacques Holt parle d'amour à Tatiana tout en songeant à Lol. À un moment, il parla continuellement à une autre qui ne voyait pas, qui n'entendait pas et dans l'intimité de laquelle, étrangement, il parut se trouver. Tatiana, ignorant les conditions de cette mise en scène, s'en effraie. « Ah, ces mots, tu devrais te taire, ces mots, quel danger !» Le paragraphe qui suit nous fait entrer dans l'univers intérieur de Tatiana Karl, mais de telle sorte que son identité, rendue poreuse par le schéma triangulaire, reste incertaine. Je cite le texte définitif. Tatiana Karl regretta. Elle n'était pas celle qu'il aurait pu aimer, mais n'aurait-elle pas pu l'être, elle, autant qu'une autre ? Il était entendu depuis le début qu'elle ne serait que la femme de Estalla, rien d'autre, rien. Qu'elle ne croyait pas que le changement foudroyant de Michael Richardson était pour quelque chose dans cette décision. Mais quel dommage tout à coup ces mots de sentiment perdus. Il est difficile ici de percevoir pourquoi le changement foudroyant de Michael Richardson est évoqué à propos de Tatiana Karl, alors qu'il ne concerne que Lol dans ce moment du bal de Tibitch où elle a été remplacée par Anne-Marie Streeter dans le désir de son fiancé. La circulation des identités que détermine cette dynamique triangulaire du désir perturbe le sens du passage, Lol et Tatiana devenant pour un temps interchangeables. Or, les manuscrits nous permettent de mieux comprendre plus clairement ce que ces mots signifiaient. On trouve dans une première version « La chambre de l'Hôtel des Bois » fut ce jour-là à Tatiana Karl celle d'une déchéance de son cœur. Elle commença à aimer Jacques Holt à travers cette douleur de le voir faire avec elle comme s'il l'eût aimé. Le changement foudroyant de l'homme de Tibitch, donc Michael Richardson, à l'égard de Lol, l'avait très longtemps éloigné du sentiment. Un second brouillon plus tardif, sous forme de scénario filmique, nous introduit un dialogue entre Tatiana et son amant. Tatiana, le changement foudroyant de l'homme de Tibitch à l'égard de Lol m'a très longtemps éloigné de l'amour. Je ne veux pas commencer à t'aimer. On comprend alors que Tatiana a volontairement renoncé à tout sentiment amoureux après avoir assisté à l'abandon de Lol par Michael Richardson, choisissant d'être uniquement pour ses amants la femme de Estalla. Mise en regard avec le texte définitif, ces fragments de brouillon font clairement percevoir le travail de l'ellipse. Ce que Duras a supprimé, c'est juste au regard de Lol, le changement foudroyant de Michael Richardson au regard de Lol. En enlevant Lol, tout d'un coup, ça revient à Tatiana, ce qui perturbe la lisibilité. Donc, obscurcissement du sens qui laisse flotter entre Lol et Tatiana une incertitude qui deviendra pour leur amant le signe de son entrée dans l'espace du ravissement. Alors, s'il s'agit ici de s'approcher au plus près de cet espace du ravissement, il s'agit plus généralement de donner substance à cet écrit en passage qui porte avec lui tout ce qui ne s'écrira pas et demande pourtant à être entendu. Comme s'il fallait, comme le formule si justement Michel de Certeau, écouter dans les mots ce qui ne peut parler. Il semble en dernière analyse que Marguerite Duras ait mise au point en 50 ans d'écriture une esthétique de la négligence, de la distraction, ces mots qu'elle affectionne, susceptible de laisser s'engouffrer, comme par inadvertance, cet écrit non écrit qui vient régulièrement surprendre le cours de la phrase. Et pour cela, dit-elle, écrire comme pour ne pas écrire, comme elle le dit de Montaigne. À propos du marin de Gibraltar, dont on ne sait jamais si on croit le reconnaître, Duras dit ceci à Xavier Gautier. Mais c'est presque lui chaque fois. Cet adverbe « presque », qu'est-ce que c'est ? C'est l'entité scolastique qui en prend un coup. Il t'est arrivé d'attendre quelqu'un dans un lieu public, une gare, un café, d'attendre en regardant le va-et-vient des gens. Alors il t'est arrivé de voir venir presque elle, presque lui. À cette différence que eux, ils ne te connaissent pas. C'est un truc auquel j'ai beaucoup pensé. C'est pour moi ce presque, le lien érotique de la troisième personne. Mais ici, le presque est au-dedans du tout à fait et me déloge à mon tour. Si c'est presque lui, c'est presque moi qui le reconnais. C'est dehors ce qui se passe toujours. Qui est complètement, tout à fait, là ? Un sujet, un désir, un texte qui sont presque là, qui en passent par les mots qui les manqueront, tout en les disant pourtant. Passage de l'écrit, passage de la littérature. Merci.